Yannick Enel, nous nous retrouvons donc au cœur de la nuit, en votre compagnie et en compagnie des archives que vous nous faites écouter. Donc nous avons entendu Daniel Arras dans Histoire de peinture, un texte extrait du Rameau d'or de James Fraser, puis Marcel Griaule qui parlait de la magie en Afrique noire, Georges Bataille qui parlait aussi de l'angoisse et de l'art. Et puis, une émission qui s'appelait Démarche, d'ailleurs un titre qui lui allait comme un gant, dans lequel intervenait votre ami Bernard Lamarche-Vadel. Là, on va un peu changer de registre dans cette seconde partie de la nuit. Nous allons aborder au fond des régions, disons, peut-être pas interdites, mais quand même interdites, ou en tout cas très très mal vues par les trois monothéismes, par le christianisme, par le judaïsme et par l'islam. D'où vient ce choix, Yannick Enel ? Qu'est-ce qui se joue là ?
Alors, je pense que ce choix a à voir avec la face la plus secrète de la littérature, qui est son rapport ambigu avec le sacré. C'est Georges Bataille, encore lui, qui disait qu'en un sens, la littérature est l'héritière des religions, qu'elle le veuille ou non. Elle en a pris la place, du moins dans le monde occidental. Et en tous les cas, ce qui se joue à cette place occupée ou vacante, c'est le rapport entre les vivants et les morts. Le passage possible d'une voie qui dirait la rencontre entre les vivants et les morts. C'est bien de cela dont il s'agissait dans ce qu'on appelle la religion. Et c'est en tout cas ce que je pense qui s'opère secrètement dans la littérature.
Au fond, ce que les théologiens appelaient la communion universelle.
Ben écoutez, oui, ça me plaît bien comme, comme terme.
Est-ce que les vivants et les morts, enfin voilà.
Les vivants et les morts. Et donc c'est vrai que ben, je lis beaucoup de livres d'histoire des religions, comme on dit. Et dans l'histoire des religions, je m'intéresse plus particulièrement à des zones un peu de sécession, des zones plus obscures, notamment concernant le massif juif à la Kabbale, à la mystique extatique, mais aussi à des singularités enfin, dans l'histoire du christianisme, des gens comme Giordano Bruno, des hérétiques, voilà. Et puis aussi dans l'islam, un personnage que Louis Massignon a abondamment aimé et sur lequel il a écrit un livre stupéfiant qui s'appelle Halaj. Le rapport entre tout ça, je pense que c'est la vérité. Voilà, la question folle, emportée, excessive, presque impossible de la vérité. C'est ce qui m'intéresse.
C'est ce qui est aussi, disons, traité, qui est au cœur, au fond, de la revue Ligne de risque, hein, cette question de la vérité. Et au fond, le travail que vous faites sur ces textes religieux, vous les exercez beaucoup dans votre revue, Yannick Enel.
Oui, c'est-à-dire qu'on a...
C'est le lieu, justement, où, oui. Au fond, où s'exerce la pensée oui. De la façon, comme vous disiez oui, tout oui. À l'heure, la plus débridée, la plus
oui.
Libre.
Oui. Alors, c'est vrai que ça a lieu dans la revue Ligne de risque, qu'on a pensé, qu'on continue à penser comme un art de mémoire. Vous savez, il y a un livre fameux de Frances Yates.
Mais oui, sur les jésuites. Hein.
Voilà, et puis sur ce qu'à la Renaissance, on a repensé...
les lieux, oui, absolument, comme des lieux de mémoire.
Art de mémoire.
Art de mémoire.
Dans l'Antiquité, on faisait
c'était
ça
c'était une
déjà.
Technique. Hein,
la technique mnémonique, mais qui consiste à essayer de mobiliser l'entièreté du savoir, oui. Tout ce qu'on peut dire de l'univers.
Dans un lieu précis donné.
Voilà, qui est un lieu cérébral, mais qu'on peut se représenter comme un théâtre, par exemple, ou comme une bibliothèque aujourd'hui.
Vous savez, pour la petite histoire, moi j'ai connu un ami qui a passé une agrégation de grec en récitant ses conjugaisons à chacune des stations de métro qui le séparaient de son université. Et donc le métro jouait comme théâtre de mémoire, au fond. La station de métro était, tout d'un coup, le lieu où... Voilà. Et c'est au fond très, très commode, très pratique.
Sauf qu'aujourd'hui, je pense que ce projet pré-encyclopédique est devenu démentiel. Enfin, il est impossible d'archiver l'entièreté de ce qui se dit, de ce qui s'est proféré. Mais de fait, la revue Ligne de risque, de manière modeste, enfin, en 20 numéros, en une vingtaine de numéros, joue le rôle de ce qu'on a pu appeler à la Renaissance des arts de mémoire. Pour eux, il s'agit pour nous à chaque fois de rejouer, de déjouer à la fois des massifs de savoir et d'essayer de nous les infuser.
Voilà. C'est-à-dire vous prenez un thème ou un auteur et systématiquement vous le dépliez dans ses recoins les plus inattendus au fond.
Voilà, par exemple, on avait consacré une livraison de la revue aux orphiques, cette secte dionysienne ou post-dionysienne que Marcel Détienne a étudiée. Et voilà, pendant des mois, on a travaillé sur ça, sur le rapport des orphiques à la société, leur scission par rapport à l'idée de la cité platonicienne, leur manière de traverser la mort avec des lamelles d'or leur indiquant le chemin du salut. Et oui, la revue Ligne de Riche joue le rôle d'une provision de relance, d'un stock d'études. Quand je me suis mis à écrire Yann Karski, il y a quelques années, donc un livre qui apparemment est loin de ces contrées-là, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un témoin, d'un messager polonais qui a vu un des moments de l'extermination des Juifs d'Europe à Varsovie, eh bien, je me suis mis à comprendre que quelqu'un qui devait porter une parole aussi incroyable, et qui d'ailleurs n'a pas été cru, qu'un témoin de la Shoah, c'était aussi quelqu'un qui faisait une expérience spirituelle. C'est-à-dire quelqu'un qui, en l'occurrence Yann Karski, qui comprenait que le cœur même de ce qu'on peut transporter avec soi ne relève pas de la preuve, mais de quelque chose qui est toujours innommable. Et cet homme, qui était catholique, est devenu spirituellement juif. Et voilà, c'est toute cette étude, toute cette expérimentation autour de l'histoire des religions, disons l'histoire du sacré, me sert pour essayer de comprendre, enfin j'ai essayé de comprendre pendant des années ce qui s'était passé dans la tête de Yann Karski, dans sa solitude. Comment est-ce qu'on peut être, comme il l'a dit, catholique et juif en même temps ? Il a dit « je suis un catholique juif ». Vous voyez, c'est énorme, enfin, ça fait imploser les codes. Et donc de fait, interroger pour moi sans cesse l'immense documentation spirituelle, c'est pas s'enfermer justement dans une croyance, ça n'est absolument pas...
C'est même le contraire.
C'est le contraire. Oui. C'est au fond prendre part à une histoire parallèle, prendre part à ce qu'il y a de plus libératoire dans les savoirs.
Et de plus refoulé dans l'histoire aussi, donc.
Mais je pense que la chose la plus refoulée maintenant dans l'histoire, comme vous dites, et puis au XXIe siècle, c'est vraiment le sacré. Enfin, je pense que ça devient même de plus en plus mal vu de dire qu'on s'intéresse au sacré. Enfin, c'est d'un coup,
on a le droit de s'intéresser aux religieux, aux religions. Mais au sacré, c'est tout à fait différent tout de même.
Bah, c'est plus périlleux parce que ça relève d'une... Là, on est sur la lèvre de la falaise, vous voyez. On n'est pas dans ce territoire confortable de certaines religions, enfin, ou de certaines personnes qui adoptent l'usage religieux pour se protéger.
La névrose obsessionnelle, disait Freud.
Voilà, on peut le dire à la manière de Freud, oui. Mais on est dans une interrogation enfin constante. C'est, je sais pas, d'un coup me passe par la tête la phrase du livre de Job: interroge les animaux, interroge le Zohar, interroge Abraham Aboulafia, interroge Al-Hajj, interroge les Évangiles, interroge le Tao.
Bon, alors je vais vous interroger sur Giordano Bruno, par exemple, puisque c'est le premier archive de cette seconde partie de la nuit que vous avez choisi de nous faire entendre. Ça s'appelle « L'infini, l'univers et les mondes, le banquet des cendres ». Et donc, y participait notamment le grand traducteur de Giordano Bruno, Yversant. Pourquoi Giordano Bruno ? Vous avez pensé tout de suite, quand je vous ai proposé de participer à cette nuit rêvée.
Absolument.
À Giordano Bruno, en fait, c'est le premier nom qui vous est venu.
C'est parce que c'est celui qui m'intéresse en ce moment, voilà. Donc j'étais en train de le lire, je continue à le lire.
Qu'est-ce que vous lisez ?
Alors je lis en ce moment à la fois des Fureurs héroïques, qui est un livre très compliqué, qui est tressé de messages, d'une quête spirituelle, du récit quasi hermétique d'une quête spirituelle et de poèmes. Et puis je lis un livre de Frances Yates, justement, sur Giordano Bruno, et ses rapports avec l'hermétisme. Mais dans « Des fureurs héroïques », donc traduit merveilleusement par Hersant, il est question d'un chasseur, le chasseur héroïque qui cherche, à travers toutes les manifestations de l'étang, qui cherche les vestiges du divin. Et Giordano Bruno, ce qui me plaît en lui, c'est qu'il a tenté, comme beaucoup d'Italiens un peu tordus de la Renaissance, il a tenté quelque chose qui serait une combinaison entre Platon, un paganisme étrusque un peu bizarroïde et très mortifère, et puis une réactivation des évangiles. Donc tout ça est très obscur, très compliqué, et donne lieu à ce qu'est pour Bruno l'horizon du savoir, c'est-à-dire la magie, l'efficacité du savoir qui transforme l'univers. Et c'est là qu'a lieu l'opération mnémonique, parce que les arts de mémoire, comme vous le savez, sur lesquels a travaillé Frances Yates, Giordano Bruno, on a conçu quelques-uns.
Oui.
Et alors, un art de mémoire, c'est pas seulement un fichier ornemental, mais c'est un lieu qui fonctionne dans un rapport organique, un lieu mental, mais un lieu de représentation qui fonctionne dans un rapport organique avec tout l'univers, avec non seulement l'entièreté des connaissances, donc Giordano Bruno fait partie des grands érudits de la Renaissance, mais également dans un savoir, je dirais, un peu plus noir, enfin l'autre côté, la face plus ténébreuse du savoir. Et mettre ça, enfin se rendre disponible à cette combinaison de savoir, la mobiliser, ça donne Marcel Fissin, Pic de la Mirandole, Giordano Bruno, c'est-à-dire quelque chose qui se passe pendant 2 siècles en Italie, avec du latin, de l'hébreu, du grec, où le grand savoir occidental se retourne sur lui-même. Alors on est à 1000 lieues de ce qui s'appellera les Lumières après, avec l'affranchissement du genre humain. Mais là, on est dans une quête spirituelle qui consiste à s'égaler à Dieu, à devenir Dieu pour pouvoir entendre ce qu'il en est de l'acte divin. Et donc, s'approcher de ces massifs qui sont à la fois théoriques et poétiques, encyclopédiques, kabbalistiques aussi, et le faire avec une librement, enfin, c'est aussi être fourni en énergie de la parole. Voilà. Ça, encore une fois, ça a un rapport pour moi, ces choses-là, avec ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la littérature.
Librement, mais chèrement payé. Pour Giordano Bruno, Yannick Enel, puisqu'il a été brûlé, condamné au bûcher.
Oui.
Il est mort en 1600, très exactement. Oui. Et d'ailleurs, il a tenu tête à ses accusateurs.
Oui.
Il les a plaints.
Oui, c'est une étrange histoire, Giordano Bruno. Quand on se promène à Rome, Campo dei Fiori, et qu'on regarde, qu'on essaye de faire face à cette statue, certains soirs, il y a de quoi être inquiété. Enfin, on a l'impression que la ville de Rome est comme maudite d'avoir brûlé cet homme. Oui.
Enfin, on en a vu d'autres. Hein.
Oui, je pense que ça n'en finira jamais. Mais qui est la plus sorcière, ouais. Est-ce que c'est Rome ou est-ce que c'était lui, ouais. La guerre spirituelle est aussi brutale que la bataille d'hommes, à dire Rimbaud. Voilà. L'histoire de Rome fait partie de cette guerre spirituelle. Et Giordano Bruno est un personnage passionnant. Enfin, cette émission en témoigne.
Alors, les vivants et les dieux, donc introduction au Zohar, le fond de la Kabbale, avec notamment, évidemment, le grand traducteur de la Kabbale, Charles Mopsik, qui est mort un peu trop jeune et un peu trop tôt, et qui était un homme magnifique. C'est une grosse, grosse entreprise. Alors, le Zohar, pourquoi est-ce que vous vouliez qu'on parle du Zohar et de la Kabbale ce soir, cette nuit, Yannick Enel?
Alors moi, j'avais envie qu'on en parle pour une raison très simple, c'est que je m'y avance très lentement, très difficilement, et donc je me disais que d'écouter une ou des émissions concernant la Kabbale et le Zohar, ça allait m'aider tout simplement parce que j'avais envie d'écouter cette émission, et parce qu'on en c'est tout à fait impossible d'être initié.
C'est très difficile à comprendre, en effet.
Mais disons que la question est celle des noms de Dieu. La question est celle de la combinatoire du langage et de la manière dont la création et l'espèce humaine elle-même, la création divine et l'espèce humaine qui en découle, sont liées à du langage. Et je dirais même, en forçant un peu le trait, à des jeux de langage. L'être, c'est du chiffre et de la lettre. Et entrer dans
c'est que du symbolique.
C'est que du symbolique. Entrer dans cet immense labyrinthe d'herméneutique de la Torah, qui est la Kabbale, c'est se rendre compte, là je le dis vraiment avec modestie, parce que je ne suis pas un spécialiste, évidemment, c'est pour ça que ça m'intéresse, je veux en savoir plus, c'est que on est face à une... On est obligé de se mettre en état d'expérience. C'est-à-dire que ce qui a lieu dans les textes de mystiques juives, mais ça pourrait également être des textes de mystiques iraniennes ou je ne sais quoi, implique un rapport personnel. C'est tout le contraire d'une église.
À la fois un rapport personnel et à la fois l'idée absolument profonde que le corps n'est qu'un produit de la langue. Et donc
le corps est
le produit d'une parole.
Absolument, le corps y est découvert, j'allais dire au sens latin inventé, l'inventio, découvert. Le corps est découvert et inventé par le langage, par les lettres.
Et par les chiffres.
Et par les chiffres. La question qui sans cesse traverse les premiers tomes du Zohar, c'est la question du saisissement. Qu'est-ce que c'est que d'être saisi? Qu'est-ce que c'est que la brûlure de la présence? Et au fond, le mage, enfin celui qui détient le savoir ésotérique de la Torah, du début de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Et ce savoir lui vient, d'après ce que disent les mystiques kabbalistes, ce savoir ne lui vient qu'à travers un bref moment de brûlure. C'est-à-dire que ce n'est qu'en brûlant que les noms de Dieu se prononcent. Et la Kabbale est une immense et stupéfiante mise en œuvre d'une interprétation, j'allais dire presque littéraire, mais alors au sens absolu d'une littérature qui se lit elle-même et qui se délie sans cesse.
La lettre elle-même, même le dessin même de la lettre.
Voilà. Et cette interprétation porte sur ce moment où Dieu se nomme. C'est-à-dire c'est quelques versets dans la Bible, et à partir de là se déploie le rapport de possibilité et d'impossibilité qu'on a concernant la compréhension de ce qu'il en est de chaque jour de la création du monde, puisque cette création du monde, dans le Zohar, c'est dit sans cesse, cette création du monde n'est jamais achevée. Le monde ne cesse de se créer, nous ne cessons, nous, de le créer, de le décréer à travers notre rapport possible avec la divinité.
Alors, je voudrais quand même dire juste un mot sur Scholem, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on a vraiment accès à tous ces textes qui étaient en train de dormir dans la poussière des bibliothèques. Et au fond, Scholem et Stéphane Moses avec lui avait dans l'idée quelque chose de très très beau, c'est-à-dire de faire vivre, de redonner une chance à tous ces mouvements magnifiques de pensée qui avaient vécu dans l'histoire, mais qui avaient été combattus par les dogmes, par les habitudes, par la mise en ordre coupée de la société, etc. Que ce soit évidemment dans le christianisme avec Giordano Bruno, ou bien dans le monde juif avec les kabbalistes, ou encore, évidemment, comme on va le voir tout à l'heure avec l'islam. Vous avez eu d'ailleurs envie de parler du kabbaliste des kabbalistes d'une certaine manière. Donc, prochaine émission, la Kabbale des kabbalistes. Alors, s'appelle le pape et le kabbaliste. Mais on saura pourquoi. C'est parce que le kabbaliste a voulu rencontrer le pape.
Oui, il s'agit d'un kabbaliste très étonnant qui s'appelle Abraham Aboulafia. Et ce qui m'intéresse passionnément concernant cet homme, il y a un très beau livre de Moshe Idel, qui était le successeur de Gershom Scholem à l'Université de Jérusalem. Ce qui m'intéresse concernant Abraham Aboulafia, c'est évidemment la manière dont chez lui l'écriture, enfin l'encre, comme il dit, est quelque chose qui renouvelle le sang. Donc le rapport entre l'encre et le sang, rejoue ce qui a lieu dès le départ dans la lettre hébraïque, celle de la création, qui est le mélange entre feu noir et feu blanc. Donc,
oui, non, non, continuez, mais je pensais justement à un numéro de Ligne de risque qui a été consacré à ce genre de, à ce genre de choses.
Hein. Oui, on a beaucoup travaillé sur notamment Rabbi Nachman de Breslav.
Bien sûr, par exemple, oui.
Et de fait, c'est vrai que moi j'essaye, pour me porter mieux, disons, j'essaye de m'ouvrir à le plus possible à ce pan au judaïsme, mais à ce pan du judaïsme qui est la mystique extatique. Voilà. Et Abraham Aboulafia, parmi les kabbalistes, est celui qui incarne à mes yeux à merveille l'extase comme possibilité de savoir, puisqu'il il identifie cette possibilité du savoir dans ce qu'il appelle le chemin des noms. Il y a toutes sortes de techniques. Alors je dis technique, c'est pas préjudiciable ce mot, des formes de méditation, disons, ou de disponibilité du corps et de l'esprit, des techniques qui consistent à faire tourner les noms depuis la prononciation quasi musicale ou scandée ou psalmodiée, du texte de la Torah. Il s'agit d'entendre la parole dans la parole, ou d'entendre les noms à l'intérieur des noms. On est là dans quelque chose qui est, je dirais, l'ésotérique le plus enchanteur, le plus dingue.
Mais en même temps, le plus matérialiste, au fond.
Et aussi, le plus matérialiste. Et quand j'emploie le mot ésotérique, c'est évidemment pas pour verser dans la... Dans je ne sais quel
sentiment océanique.
Non, c'est vrai, on est au contraire dans la précision la plus acérée. Et mais chez Abraham Aboulafia, tout relève d'une manière de s'auto-transmettre la Torah en train de brûler. Chacune de ces lettres brûlant dans ses veines, transformant son sang en encre, pour entendre ce qu'il en est du nom de Dieu. Bien évidemment, ce genre de pratique relève de l'outrage, disons, de l'hérésie. Et il y a cette fameuse rencontre, effectivement, que nous raconte cette émission entre Abraham Aboulafia et le pape, ou plutôt cette non-rencontre, mais peut-être
oui.
on laisse le mystère sur ce moment extraordinaire et drôle et passionnant.
Alors là, on va arriver tout de même à une incandescence aussi parce que l'actualité nous interdit, c'est presque un blasphème qu'on est en train de commettre là, et donc on le commet en plus avec plaisir. On va parler de Halage et de Massignon. On va entendre Massignon nous parler de Halage. Donc, le Halage, c'est, dans l'islam, celui qui a été crucifié.
Oui.
Il a été crucifié parce qu'il disait qu'il était la parole de la vérité, justement. Donc, on revient sur ce que vous nous disiez au début, de ce qui pouvait vous intéresser, justement, dans ces hérésies. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi très précisément d'entendre Massignon dans Halage ?
Alors là, c'est effectivement très précis, et comme vous le dites avec raison, c'est lié à l'actualité la plus criminelle, la plus sanguinaire. Je me suis demandé, à force de voir, ou plutôt de ne pas voir, puisque je ne les ai pas regardés l'année dernière, les exécutions dans le désert de journalistes américains et autres, par les djihadistes.
La plus terrible étant celle du jeune Jordanien,
oui,
qui était brûlé vif dans une caisse
en fer. Je me suis demandé, bon, d'une part, jusqu'à quel point...
Totalement démoniaque. Hein.
Ouais, jusqu'à quel point le degré d'implication religieux était là, dans le moment de la mise à mort. Chez donc ces djihadistes, et de quoi ça relevait spirituellement. Et donc je me suis mis à lire. Je m'intéresse depuis pas mal d'années avec François Méronis et pour la revue Ligne de Risque aux travaux notamment de Christian Jambé et notamment à tout ce qu'il a pu découvrir du chiisme ismaélien. Enfin, c'est un massif extraordinaire.
À la Mout, par exemple.
À la Mout, voilà, 12e siècle.
La et forteresse là, où tout le monde se vivait comme ressuscité. Hein. C'était extraordinaire.
Et où la terreur était appliquée comme une méthode d'esprit, en fait. Donc, c'est pas sans rapport aussi avec ce qui se passe aujourd'hui, enfin, géopolitiquement. Et donc, je me suis mis à lire, là aussi, en amateur, mais je veux rester un amateur. Je suis un écrivain, donc quelqu'un qui est ouvert à tout. Je me suis mis à lire Massignon. Et d'une part, j'ai été stupéfait par l'incandescence, comme vous le disiez, par la beauté de ce projet entièrement oblatif. Enfin, on est dans l'oblation absolue, dans l'offre existentielle de Massignon à son sujet, qui est non pas l'islam, mais qui est une passion, comme il le dit. Une passion qui n'est pas celle du Christ, mais celle de cet homme-là, Ibn Mansour el-Halaj, qui va dans son itinéraire sacrificiel, jouer, rejouer et déjouer ce qu'il en est de la transcendance. Dans cette émission...
La transcendance et de la criminalité des hommes.
Absolument.
Sur laquelle il met le doigt, au fond. Alors, c'est...
Ce qu'on entend dans cette émission est proprement prodigieux. C'est vraiment... Je peux dire que c'est une... Je peux dire que c'est l'une des fois où, écoutant France Culture, j'ai été le plus ébranlé, le plus ému et aussi le plus stupéfait. Parce que chaque énoncé, chaque phrase de Louis Massignon, on va les entendre, semble sortir depuis un point d'abîme. Comme si Massignon, et c'est pas seulement comme si, c'est comme ça, Massignon sait quelque chose au moment où il l'énonce, qui relève là pour le coup de la singularité d'un rapport avec le divin tel qu'il a été poussé jusqu'au sacrifice. Quand Massignon parle de cette crucifixion-là, qui est une date dans l'histoire de l'islam et dans l'histoire du monde, au fond, qu'on le sache ou non,
bien sûr.
Massignon parle aussi de ce qu'il en est de l'esprit. Et on va entendre la manière dont il parle notamment de ce qui se passe entre Abraham et Isaac, et dans l'Ancien Testament, et surtout dans le Coran. C'est pas la même histoire, comme vous savez. Et je dois dire que là, ce qu'il est capable d'énoncer relève d'une forme de tremblement de l'intime où seul ce qu'on a appelé le religieux est capable d'entrer. Voilà, on est là dans le mystère. Et donc je pense que ce qui s'est joué sous le nom de Massignon à un moment dans l'histoire, je ne sais pas, du XXe siècle, mais dans l'histoire de la transmission du savoir, des savoirs, dans l'histoire de la religion. Ce qui s'est joué sous ce nom-là est encore aujourd'hui, à mon avis, incompris. Ou peut-être ça s'est, comme la lettre volée, ça s'est replié. Et là, je dois dire qu'on est pendant une heure, Massignon parle des trois monothéismes. Et c'est une... c'est vraiment prodigieux.
Alors, Massignon est publié dans une collection de poches très accessible. Et c'est vrai que si on veut comprendre quelque chose aujourd'hui à ce qui nous advient, parce que bon, tout ça n'est qu'un début finalement, faut quand même le dire, on a tout à fait intérêt à lire et à relire Massignon qui éclaire au fond un certain nombre de points de criminalité.
Oui. Mais je pense que d'une manière générale, au fond, on peut faire, on peut aussi ne rien faire, hein, mais on peut faire comme Dante au purgatoire, c'est-à-dire tenter de sortir de l'enfer, l'enfer qui a lieu sous nos yeux, enfin, quotidiennement, on peut tenter de sortir de l'enfer et visualiser, éprouver, avoir un rapport avec des œuvres d'art qui nous purgent. Parce que c'est ça l'histoire du purgatoire de Dante. Il est avec Virgile, il se promène de roc en roc, de falaise en falaise, et il y a des bas-reliefs qui représentent toute l'histoire de l'humanité. Et c'est à travers la contemplation de ces œuvres d'art que quelque chose se passe de l'ordre, d'un ordre lustral, enfin d'une purification, pour enfin pouvoir accéder au paradis. Et je pense que finalement, comme occupation, comme passe-temps, il n'y a peut-être pas meilleur que de passer sans cesse les étapes de cette purgation. Et donc de s'interroger grâce à la mémoire, au fond, à cet art de mémoire permanent qui est l'archive, enfin, et notamment l'archive spirituelle, sur ce qu'il en est du mal. Puisque depuis tout à l'heure, c'est de ça dont on parle, enfin du mal.
C'est de ça dont parlait Bataille.
Aussi.
C'était la question de Bataille.
Ouais. Je pense qu'au fond, aussi bien la pensée que la littérature, puisque j'essaye de... Vous me posiez la question tout à l'heure, j'aimerais que ces deux termes coïncident, pensée et littérature. Je pense que... La double question qui gît dans cette coïncidence, c'est le rapport avec le mal et le rapport à l'indemne. Parce que je pense qu'un écrivain ou un penseur, c'est quelqu'un qui essaye aujourd'hui, avec les moyens les plus contemporains, de décrire ou de faire entendre quelque chose qui a lieu dans le plus abject. C'est quelqu'un qui sait déceler la coercition, le crime, la criminalité inhérente à l'espèce humaine, qui sait la débusquer, et qui en même temps, parce que ce n'est pas tout, qui en même temps est capable du même geste de nous offrir poétiquement j'allais dire un dépassement, mais le mot est un peu vieillot, une possibilité d'aller vers ce qui n'est pas damné, c'est-à-dire l'indemne, puisque le mot l'indique lui-même, l'indemne, c'est le non damné. Et qu'est-ce qui n'est pas damné ? Qu'est-ce qui ne peut pas être enfermé en enfer, ben, ça s'appelle l'amour.
C'est là-dessus d'ailleurs que se termine la Divine Comédie, n'est-ce pas ?
Absolument.
Qu'est-ce que prépare Ligne de Risque actuellement, Yannick Hennel ? Est-ce que vous avez des choses en tête ?
Ah ben, on s'intéresse.
Vous et vos amis ?
Oui, bien sûr, ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais. On s'intéresse de près... à deux choses qui ont l'air un peu contradictoires et leur rapport peut sembler farfelu. On s'intéresse à nouveau à Chrétien de Troyes et à une relecture comme ça de Chrétien de Troyes.
Grand érotomane par ailleurs. Ah oui.
Et il s'agit de ça, effectivement. Il s'agit de la rose mystique, qui n'est pas seulement mystique, comme vous savez.
Et oui.
et à ce trajet qu'il y a dans chacun de ces livres. Vers une ouverture du sauf. Voilà, on parlait de l'indemne. Chrétien de Troyes raconte dans chacun de ses romans, et dans Lancelot notamment, Le Chevalier à la Charrette, il décrit un pays occupé. Et ça, c'est très intéressant politiquement. Un pays occupé par du mauvais esprit. Un pays occupé à l'inessentiel. Et un chevalier doit aller chercher, doit faire l'épreuve d'aller chercher la reine qui a été kidnappée pour la ramener. Et voilà, ce sont des allégories qu'on va essayer de ramener aux contemporains, de faire entendre aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est...
Je vous signale quand même que tout ça est traduit de façon très belle dans une collection qui s'appelle Lettres gothiques, qui se trouve en livre de poche,
c'est
où
vrai,
on trouve
oui,
tous les textes
oui,
médiévaux
oui, oui, oui.
À portée de main, à portée de bourse, oui. et très 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 bien traduit, toujours par des gens qui s'y connaissent très
notamment
bien.
Notamment à l'époque, enfin, Charles Mellat.
Ben oui. C'est Michel Zinc qui s'occupe de ça, c'est très très bien.
Oui, oui.
Et
la deuxième chose, c'est en même temps, enfin, on s'intéresse, Méronice et moi, aux tournures les plus infernales du capitalisme. Et donc on interroge Frédéric Lordon et d'autres personnes qui essayent de démêler les travers et les perversions.
Il écrit beaucoup dans le monde diplomatique.
Absolument, je le lis sans cesse là. Et le prochain numéro, je pense, ce sera de Ligne de Risque, ce sera un étonnant dialogue entre Chrétien de Troyes, Frédéric Lordon et nous.
très bien, Yannick Hennel. Nous serons à l'affût. Alors, puisqu'on est finalement encore sur les projets de Ligne de Risque, on peut peut-être parler de celui qui a été fait, là, qui vient de sortir, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et, au fond, pourquoi avoir choisi ce romancier ? Alors,
effectivement, la livraison de Ligne de risque de cette année est consacrée à Leigh Brochmann et à son roman À pas aveugle de par le monde.
Très beau titre.
Très, très beau titre. C'est un livre qui a été donc traduit il y a quelques années par Rachel Hertel.
Et il y a même assez longtemps, d'ailleurs, je crois qu'il est passé complètement inaperçu.
Oui, il y a, je dirais, il y a 3-4 ans, oui. Maintenant, il est en folio, enfin en poche. Mais de fait, c'est un livre qui n'a pas déclenché un mouvement de foule, oui. mais je pense que c'est aussi sa vertu, en fait. C'est un livre qui demande à être... qui demande à ce que sa lecture relève d'une forme d'initiation. Et de fait... n'a pas non plus envie d'être initié tous les matins, mais je le déplore, mais c'est comme ça. Et alors, on a essayé de s'initier au moins à trois, François Méronis, Valentin Ray et moi, à ce livre qui est très étonnant parce que c'est donc de la littérature, mais c'est de la littérature qui prend à son compte ce qu'il en est d'une lecture possible de la Torah et ce qu'il en est de la mystique juive. Ce qu'il en est de la littérature également ou du témoignage possible concernant ce qu'en yiddish on appelle l'anéantissement, enfin ce que Rachel Hertel a traduit par
je
le mot anéantissement.
C'est un mot
plutôt que Shoah, voilà.
qui convient bien mieux finalement que tous les autres mots, Shoah, Holocauste, etc. Je trouve que anéantissement est un terme très adéquat.
Mais c'est-à-dire que ça renvoie effectivement à une nouvelle destruction du temple. C'est-à-dire
oui,
que c'est
et à une destruction de l'espèce humaine, enfin...
À travers le peuple d'Israël.
À travers le peuple d'Israël. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que là, quand on parle d'anéantissement, justement, être juif, c'est être universel, quelque part. C'est-à-dire, justement, être atteint par le crime fondamental.
Eh bien, de fait, ce livre, avec tous les moyens possibles, puisque ça passe... avant tout par la fiction, mais une fiction qui ne relève pas d'un mensonge ou d'une tromperie ou d'une falsification, mais d'une universalité possible des discours pour accueillir cet événement-là qui est au bord de l'impossible à représenter. Eh bien, ce livre, de fait, est un livre qui essaye de s'interroger sur l'impact de la... j'allais dire la Shoah, mais c'est appelé dans le livre l'anéantissement, voilà.
Oui,
l'impact de l'anéantissement sur les Juifs et sur la structure du monde.
Oui.
Parce qu'au fond, la question ne concerne pas que le peuple d'Israël, mais elle concerne ce qu'il en est du lien possible et de l'existence des liens entre des individus. Le livre est absolument sidérant parce qu'il nous met en rapport avec les morts qui reviennent. Non seulement ceux qui reviennent d'Auschwitz et des autres camps d'extermination que Leigh Brochmann appelle les plaines, comme un pays inconnu, un pays où la mort règne. Non seulement ceux qui reviennent sont des vivants, enfin des survivants, comme on
oui.
dit, mais également les morts reviennent. Mmh. Et c'est là que la leçon, si je puis dire, et le mystère métaphysique de ce livre est... nous ouvre à quelque chose d'abyssal, c'est que l'acte perpétré par le Troisième Reich et par les nazis a modifié l'univers entier. En libérant quelque chose par cette criminalité qui est allée jusqu'au bout d'elle-même, en libérant quelque chose qui détraque complètement le monde. C'est plus seulement, comme l'avait dit Shakespeare, que le temps est hors de ses gonds, mais que le fait même de respirer est peut-être devenu impossible.
Nous allons entendre une émission sur Giordano Bruno, par son traducteur, Iversan, qui s'appelle « L'infini, l'univers et les mondes », très très beau titre, donc « Le banquet des cendres ». L'introduction au Zohar, le fond de la Kabbale par Charles Mopsik, c'était une émission qui s'appelait Les vivants et les dieux, très belle émission aussi de France Culture. Et puis Les chemins de la connaissance, Kabbales et kabbalistes, Le pape et le kabbaliste. Et ensuite, évidemment, ce morceau d'anthologie magnifique dont vous nous avez si bien parlé. Louis Massignon qui nous parle de Halaj et de son martyr et de sa pensée. Voilà. Et puis nous nous retrouvons après, vous voulez bien,
pour Bien sûr.
Pour saluer l'aube qui nous advient, qui nous arrive.
Très bien.
Vous qui aimez les aubes.
Oui.